Bonsoir à tous. Donc on va continuer ce dans le livre des Proverbes, la suite, enfin la suite. On va au chapitre suivant, au chapitre 24, et on va démarrer de suite avec un verset, et puis on va avancer au fur et à mesure, et on va voir où est-ce que ça va nous mener quelque part. Donc au chapitre 24. Et au verset 14, il y a un verset qui m'a. C'est un verset, ça fait des années que quand je le lis, il m'arrête un peu. Et donc là, je m'y suis peut-être arrêté un petit peu plus. Et puis, bon, il n'y aura pas que ce verset. C'est le verset 14. Et il est dit, de même. Attendez. Non, au verset 12, pardon. Il est dit, si. Tu dis, ah, nous ne savions pas. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Et très intéressant, ici, en fait, le début du verset. Si tu dis, ah, nous ne le savions pas, en fait, c'est une manière comment dire, d'amener une excuse. Qu'est-ce qu'on ne savait pas? Le verset ne le dit pas. Mais on peut y mettre plein de choses dans notre vie. Des péchés, des mauvaises décisions, des mauvais choix, des mauvaises orientations dans notre vie, des relations qui ne sont pas celles qu'elles devraient être, ou je ne sais rien, ou quelque chose de ponctuel, quoi que ce soit, qui n'est pas selon le cœur de Dieu, qui n'est pas selon la parole de Dieu. Et nous, on dit, ah, nous ne savions pas. C'est une manière de se trouver, enfin, en tout cas, c'est une manière de dire, de chercher une excuse. Et quelle est l'excuse? L'excuse, c'est l'ignorance. L'excuse, c'est l'ignorance. Voilà. Donc, en fait, on est tous conscients que nous sommes pécheurs. Donc, j'ai que, on va dire, une, deux. On va dire, il y a peut-être deux, trois possibilités d'excuses qui sont dans notre sac, qui ne sont pas forcément valables. La preuve, le verset le dit. Mais voilà, on a quoi comme excuse? Là, je ne le savais pas. C'est ce que dit ici le verset. C'est la faute à l'autre. Ça, c'est un truc qui marche bien. Mais quand on lit la Bible dans tous les sens, ben, on s'aperçoit que Dieu nous parle à nous et que les excuses concernant ce que les autres ont pu faire, dire, etc., ben, ça a un poids très relatif. Et la troisième chose, c'était trop dur. Mais là encore, quand on connaît un peu la Bible, Dieu a tout fait pour venir vers nous. Il nous donne un nouveau cœur, il nous donne une nouvelle nature, en fait, il nous donne tout. Donc, quelque part, derrière l'excuse, ben, forcément, elle est un peu légère, quoi. Donc, ici, si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Et c'est intéressant parce qu'en fait, nous, on cherche des excuses et Dieu dit, il n'y a pas d'excuses, mais en même temps, il n'y a pas de problème pour moi. Parce que moi, je règle le problème autrement. Donc ici, il dit, voilà, donc, ah, si tu dis, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Donc, première chose, Dieu voit tout, il est au courant. Donc, dire je n'étais pas au courant ou ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer ou je ne sais pas quoi. Non, mais Dieu est en contrôle de tout. Donc, ça peut pas coller, en fait. La suite du verset, il dit, et ça me plaît beaucoup, celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Donc, il y a celui qui pèse les cœurs. On a l'impression qu'on est en train de parler d'un juge, celui qui pèse les cœurs. Mais le verset suivant, celui qui veille sur ton âme. Donc celui qui pèse les cœurs, c'est celui qui veille sur ton âme. Hein? C'est celui qui veille sur ton âme. Ne le connaît-il pas? Dieu connaît tout. Il pèse les cœurs, mais il veille sur mon âme. Il prend soin de moi. Et j'ai besoin toujours d'avoir cette. La semaine dernière, on avait parlé du cœur du Père. J'ai besoin d'avoir cette vision le plus correcte possible de Dieu avant d'avancer dans des réflexions sur moi, sur les autres, sur la vie, sur les situations. Parce que sinon, je vais toujours interpréter les choses de manière erronée parce que ma grille de lecture, elle part avec en fait, avec des erreurs, avec des choses qui sont fausses. Même pas simplement des erreurs, mais avec des choses qui sont fausses, qui ne sont pas la vérité, vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de moi, etc. Et donc, il dit, donc, celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Et ça, c'est très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Pas pour l'explication que je vais en dire, mais parce que dans le même chapitre, au verset, voilà, 29, c'est ça, ce qui me semblait, il est dit, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres. C'est drôle, exactement la même expression. Au verset 12, elle est attribuée à Dieu d'une manière positive, et au verset 29, elle est attribuée à l'homme d'une manière réprobative, qui est négative. Et ça, c'est intéressant. Parce que pourquoi? Parce que du coup, ce que je vous dis, on pourrait se dire, ouais, mais tu es trop simpliste, toi. L'âme humaine, elle est plus compliquée que ça. La vie, c'est plus compliqué que ça. Les solutions à trouver dans notre quotidien, c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu dis. Dire, c'est pas juste, tu auras de Dieu avec une bonne définition et puis ça va, quoi. Non, non, ça, c'est enfantin ce que tu es en train de me dire. Ben, c'est drôle parce que ici, l'auteur des Proverbes, qui est Salomon, il semble aller plutôt dans mon sens. Parce que d'un côté, on cherche des excuses, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu pèse les cœurs, qu'il voit tout, qu'il connaît tout, qu'il veille sur nous et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Moi, je ne m'attends même pas à cette fin de verset, au verset 12. Je ne m'attends pas à ça, moi. Je m'attends à quelque chose qui est beaucoup plus cajoleur. Mais non, en fait, Dieu est en train de dire, Dieu, en fait, il est juste. Il est juste. Et c'est intéressant parce que on le sait tous, nous sommes appelés à marcher par la foi. Donc, à marcher par des choses que nous croyons, que Dieu a révélées, mais à marcher avec des éléments, peut-être des pensées, des certitudes qui ne se voient pas. Qui ne se voient pas. Et je dirais que simplement le fait que Dieu est juste, quand je regarde ce monde, quand je regarde peut-être ma vie, ou des fois la vie d'autres personnes, c'est pas une évidence. C'est pas une grande évidence. Théologiquement, je le sais, c'est dans la Bible, c'est écrit dans tous les sens. La justice de Dieu, elle est défi... Mais la chose importante, c'est que la justice de Dieu, elle est définie par le Christ sur la croix. Et en fait, moi, j'ai aussi une autre justice qui est, comme on dit en général, la justice propre. Et celle-ci, elle n'est pas définie par le Christ sur la croix. Elle est définie par d'autres critères, des critères visibles. Et du coup, eh ben voilà, je jauge ma vie et je jauge la vie avec ces critères visibles. Et Dieu me dit non, 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 non. Dieu, il connaît tout, il en contrôle le tout, il sait tout, il veille sur ton âme et il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, en fait, il est juste. Il est juste avec les gens qui te font du mal et il est juste avec toi qui peut-être des fois fait du mal à d'autres. Et c'est le tu fais du mal à d'autres, c'est ce qui est un petit peu décrit entre ces deux versets. Parce que il est parlé bon, de plein de choses, on va pas y rentrer, mais il est parlé de tendre un piège au juste, il est parlé de se réjouir. Alors, très intéressant, verset 17. Ne te réjouis pas, ça c'est intéressant, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. On en avait déjà parlé une fois. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie et que cela lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Chose que je trouvais intéressante dans ce verset-là. Donc Dieu dit de ne pas se réjouir du mal de nos ennemis. Mais en fait, si on lit bien le verset 18, je ne dois pas me réjouir du mal qui arrive à mes ennemis. Pourquoi? De peur que l'Éternel ne le voie et que cela lui déplaise. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose est intéressante, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, le mal qui arrive à mon ennemi, c'est Dieu qui est en train d'appliquer sa justice sur mon ennemi. Donc moi, il ne faut pas que j'y mette les mains au milieu. Et si j'y mets les mains au milieu, cette colère, elle se détourne de son ennemi, de mon ennemi, et elle vient vers moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de croyants et puis de gens, de toute façon, sur Terre, qui ne comprennent pas ce que Dieu fait. Ils ne comprennent pas ce que Dieu fait parce qu'au début de la situation, ils ont raison et l'autre a tort. Mais au bout d'un moment, Dieu est obligé de s'opposer dans le temps à eux parce que leur attitude, à un moment donné, elle n'est pas correcte. Elle n'est pas selon ce que Dieu dit. Et du coup, effectivement, d'une certaine manière, sa colère, elle se détourne vers nous. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante. Et chose aussi qui revient très souvent, qui revient ici, mais on avait un tout petit peu parlé la dernière fois, et puis on le voit très souvent. Je veux dire, il est dit au verset 19, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font mal, ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir, etc. Ne porte pas envie aux méchants. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent, non, mais moi, je ne m'occupe pas des autres, comment dire, je ne vis pas par rapport aux autres, je ne vis pas par rapport à l'apparence, à ce que je vais rendre. Voilà, je cherche pas à soigner nécessairement les apparences ou à fonctionner de cette manière-là, mais en fait, ce qui nous est dit et redit plein de fois, c'est qu'en fait, nous irritons dans notre cœur à cause du mal dans ce monde, à cause des méchants, à cause en fait du constat objectif avec ma vue qu'il y a une forme de justice qui n'est pas en train de s'exercer. Une forme de justice qui n'est pas en train de s'exercer. Mais là, encore une fois, le problème, c'est que je suis concentré sur cette forme de justice qui est tout à fait naturelle, humaine, chiffrable, éthique, morale, si vous voulez, mais pas toujours, mais qui est souvent détachée de la croix de Christ. Qui est souvent détaché de la croix de Christ. Parce que selon, on va dire, une justice en termes de bien, de mal, de peser, etc., le pardon n'a pas de place. Le pardon n'a pas de place. La vengeance en a beaucoup. Et la croix de Jésus-Christ est un événement historique et un intérêt uniquement pour un avenir très lointain qui est en dehors de cette vie, en fait. Et nous ne devons pas penser de cette manière-là, en fait. On doit au contraire prendre la croix de Jésus-Christ, considérer que c'est l'essentiel du caractère de Dieu et le placer dans les situations, le placer dans ma vie, le placer dans les problématiques qui sont devant moi, en fait. Alors, on continue un petit peu. Nous avons, donc voilà, donc ça, oui, je vous ai dit que ces deux versets, donc ces deux bouts de versets, du coup, encadrent une portion, là, ici, des Écritures. Voilà. Et donc, il est parlé aussi, oui, voilà, c'est ça, dans ce chapitre-là, il est parlé d'éviter le favoritisme, l'acception de personne, le favoritisme de, voilà, de, ben oui, pour le coup, de ne pas être équitable et d'être plutôt pour l'un, pour l'autre, pour des raisons qui ne sont pas si objectives que ça. Donc ça rentre ici dedans. Et je voulais m'arrêter un petit peu sur une chose. C'est le verset 16, donc le verset qui est le plus connu de ce chapitre et qu'on ressasse souvent. Et après, on va peut-être rebondir ailleurs, mais c'est intéressant parce que ce verset, c'est le verset 16, donc il est dit, car sept fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Et la première partie du verset, elle est intéressante parce que finalement, il y a trois promesses, mais les trois ne nous font pas forcément plaisir. Et des fois, on vit en essayant d'omettre une promesse. Quand je dis une promesse, en fait, ce n'est pas toujours positif, les promesses de Dieu, hein. Je veux dire, une promesse de Dieu, c'est que celui qui ne croira pas dans le Fils de Dieu ira en enfer. C'est une promesse. Ce n'est pas très positif. Ce n'est pas très intéressant, mais c'est une promesse. Et ici, au verset 16, en fait, il y a une promesse ou déclaration de Dieu. Car sept fois le juste tombe et il se relève. Première déclaration, en fait, c'est que nous sommes justes. Première déclaration, c'est que nous sommes justes. Ça, c'est une chose à noter. Tout comme je dis, le caractère de Dieu, qui est Dieu, les éléments qui sont donnés sur la personnalité de Dieu, il est essentiel que nous les ayons devant les yeux. Il est essentiel que nous ayons aussi devant les yeux le fait que nous sommes justes. Nous sommes justes parce que nous avons été justifiés. Ce qui ne veut pas dire que nous ne péchons pas. La preuve, le verset le dit. Le juste tombe sept fois. Ben, selon l'évaluation de la justice dont nous parlions tout à l'heure, le juste qui tombe sept fois, ça fait déjà au moins six fois qu'il est plus juste. C'est logique. Donc, comment est-ce que je veux fonctionner? Selon cette justice toute humaine qui va dire que le juste, une fois qu'il est tombé, ben, il est disqualifié, il n'est plus juste, ou selon la justice de Dieu qui dit que le juste est juste. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris sa place sur la croix et a tout payé. A payé la dette, c'est réglé, il n'y a plus de problématique ultime de péché entre Dieu et nous. Donc ça, la première chose, c'est nous sommes justes. La deuxième chose qui est une promesse, mais qui ne va pas nous plaire, c'est que nous tombons. Le juste tombe. Merci pour l'information. Je m'en serais bien passé, j'aurais bien aimé, mais il se trouve que, une, c'est très bien, nous sommes justes aux yeux de Dieu, mais deuxième chose, nous tombons. Et même, nous tombons cette fois. Cette fois, ça veut dire quand même que ben, on doit tomber un petit peu souvent quand même. Ce n'est pas précisé dans quelle période de temps, ce n'est pas précisé, mais bon, le juste tombe sept fois. Et la troisième promesse à laquelle on doit s'attacher, c'est qu'il se relève. Sous-entendu, il se relève toujours. Il se relève toujours. Il peut toujours se relever, le juste. Mais il va se relever comment? Il ne peut pas se relever en s'appuyant sur ce qu'il voit. Il ne peut pas se relever en s'appuyant sur cette justice de bien et de mal, puisqu'il est tombé. Il peut se relever que sur la justice que Dieu nous propose, sur la justice qui rencontre l'amour de Dieu, tout simplement. Donc ça, c'est les trois choses. Et on va aller voir un autre chapitre qui n'est pas dans les Proverbes, et on va même sûrement lire relativement rapidement, peut-être, mais ce n'est pas grave. Le psaume, qui n'est bon, pas très long non plus, c'est un psaume de repentance, ce n'est pas le psaume 51, c'est le psaume 32. Et au psaume 32, en fait, j'ai trouvé une chose, c'est. Je vais essayer de vous le décortiquer un peu comme ça. Hein. Je trouve que c'est un petit peu les différentes étapes de la vie du juste. Les différentes étapes de la vie du juste, voyez-vous. Et vous allez, je pense, comprendre assez bien. Donc, le contexte de la situation, c'est le péché de David, apparemment, comme dans le psaume 51. Mais la manière dont les choses sont amenées ici, c'est très différent. Enfin, c'est très différent. Ça ne se focalise pas forcément uniquement sur ce péché en particulier ou quoi que ce soit, ça n'en parle même pas d'ailleurs, mais voilà, c'est assez général et c'est intéressant. Vous savez, il y a une chose qu'on regarde rarement quand on lit les psaumes, ce sont les pauses. Je ne sais pas, vous, est-ce que vous lisez les pauses quand vous lisez un psaume? Je ne sais pas, mais moi, des fois, ça m'arrive de lire les pauses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'en fait, le psaume, il a une certaine longueur, il a un certain nombre de versets, mais entre certains versets, à un moment donné, il est marqué pause. Mais ce n'est pas marqué juste pour faire joli ou pour, comment dire, pour qu'au niveau de la musique qui va accompagner le psaume, ça tourne bien. Le but d'une pause dans un psaume, c'est de s'arrêter, de réfléchir à ce qui a été dit précédemment. C'est ça l'intérêt. Donc déjà, c'est déjà très bien qu'il y ait des pauses dans notre vie aussi. Mais bon, ça, un petit parallèle, mais on ne va pas développer. Donc il est dit au psaume 32, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Donc ça nous montre quoi? Ça nous définit le juste que nous voyons en Proverbe 24, 16. Voilà, ça nous définit d'une certaine manière le juste selon Dieu. D'ailleurs, le premier verset, il est repris dans l'Épître aux Romains pour parler justement comment dire, de la substitution. Et donc, il dit une chose intéressante quand même, à la fin du verset 2, il dit, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Donc, quand tout à l'heure, je vous disais une bonne nouvelle, c'est que Dieu dit que nous sommes justes, pourtant nous tombons, donc nous sommes, il n'y a pas de fraude dans notre esprit. Pourtant, des fois, je constate des choses qui ne sont pas de cet ordre-là. Je peux constater de la fraude en moi, en fait. Mais Dieu dit, il n'y a pas de fraude dans mon esprit. On continue, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Pause. Qu'est-ce qu'on vient de lire? On vient de lire que nous sommes justes, nous sommes pardonnés, nos transgressions sont remises, le péché est pardonné. On lit aussi une chose ici, c'est que nous sommes heureux. Nous sommes heureux. C'est répété deux fois. Nous sommes heureux. Et pourquoi nous sommes heureux? Ben justement, parce que nos transgressions, elles sont remises. Pas parce que je ne pêche pas aujourd'hui. Pas parce que je grandis bien, vite, mieux que les autres ou quoi que ce soit. Non, non. Je suis heureux parce que ma transgression, elle est remise une fois pour toutes. Je suis heureux parce que l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Et vous savez, quand il parle, quand ici il dit, quand heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, c'est le péché. Ce n'est pas les péchés, c'est le péché qui est en moi. Ça veut dire que Dieu ne m'impute pas la source du péché, c'est-à-dire le péché qui est en moi et qui fait que je pêche par nature. Ça ne m'est pas imputé. Et moi, j'ai besoin de regarder cela. J'ai besoin de me nourrir de cela et j'ai besoin que mes réflexions, elles se reposent là-dessus. Penser autrement, ce n'est pas penser comme un enfant de Dieu. Ce n'est pas penser comme une personne qui est juste. Et la finalité, ça sera que nous ne serons pas heureux aussi. Et donc, une chose qui est ici, c'est ça, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Tant que je me suis tu par rapport à mon péché, mais pas mon péché qui est dans mon cœur, comme ici, il est parlé de l'iniquité, de mon péché qui est les péchés que je commets. Et là, pour ce qui est David, bon, ben, on connaît l'histoire, on ne va pas y revenir. C'est l'histoire avec Bathsheba, Uri et toute l'histoire qui est là autour. Et tous les méfaits qui sont venus avec cela. Donc, tant que je me suis tu sur mon péché, en fait, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, ta nuit, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse. Ça veut dire aussi une chose, c'est que Dieu traite mes péchés. Dieu traite mes péchés. Dieu agit dans ma vie par rapport à mes péchés. Mais dans quel but? Dans le but, pas de me juger, dans le but de me faire grandir. Et dans le but de revenir à lui. Et dans le but de fonctionner avec lui. Donc ça, c'était le premier point. La première étape, si vous voulez. Deuxième étape, verset 5. Donc, première étape, on a vu qui nous sommes et je pêche dans mon quotidien. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, verset 5, je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Ce verset-là, il est prodigieux. La pause, elle est de suite. Hein. Il faut de suite se reposer parce que là, déjà, on est fatigué avec ce verset-là. Hein. Je vous le dis. Hein. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Donc, deux choses. Je t'ai fait connaître mon péché. Donc, en fait, je vous le dis autrement, je fais connaître à Dieu mes péchés quotidiens. OK ? Enfin, à partir du moment où je les connais, du moins. Et une autre chose de fait, je ne cache pas mon iniquité, je ne cache pas le fait que je suis un pécheur et que, voilà, la source du péché, elle est en moi. Je ne le cache pas. Donc, je ne cherche pas à me déguiser en quelqu'un d'autre que ce que je suis. Je crois que je suis juste parce que Dieu le dit, mais je sais qui je suis par nature, exactement comme dans la première lettre de Jean au premier chapitre et au deuxième chapitre, quand il est parlé de confession, etc. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, en fait, il est menteur, etc., etc. Mais bref, ça serait tout à fait un parallèle. Donc, et la chose qui est très jolie ici, donc j'ai dit j'avouerai, oui, donc j'ai dit j'avouerai mes transgressions. Donc ça, mes transgressions, ce sont mes péchés de tous les jours, on va dire, à l'Éternel. Et regardez ce que fait Dieu. Et tu as effacé la peine de mon péché. Intéressant. Il n'a pas effacé le péché. Dans le quotidien, il n'a pas effacé le péché. Dans ma position, il a effacé le péché, il a payé pour. C'est plus une question, c'est pour ça qu'il dit que je suis juste. Mais dans mon quotidien, il n'a pas effacé le péché. Il a effacé la peine de mon péché. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire, il a effacé peut-être ma mauvaise conscience. Il a effacé le fait peut-être que je passe ma vie à essayer de sauter des obstacles que je n'arriverai pas à sauter. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas de sauter des obstacles, c'est d'être sous le même joug que Jésus-Christ. Et si on est sous le même joug que Jésus-Christ, on va sauter les obstacles qui seront devant nous. Mais si je ne suis pas sous le même joug, ben, les obstacles sont quand même là. Ils vont paraître encore plus grands. Je vais me donner comme objectif ultime de les sauter et je vais me ramasser régulièrement. Obligatoirement. Donc c'est la peine du péché qui est effacée. Donc voilà, on pose. Troisième partie, verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux. Donc, qu'ainsi, c'est quoi? C'est la conclusion de ce qu'on a entendu, qu'on a lu juste avant. Donc, avec tout ce qu'on a dit jusque-là, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile, un refuge pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Pause. Et là, la troisième partie, c'est quoi? La troisième partie, c'est qu'il y a une relation avec Dieu. Et Dieu me protège. Mais il me protège comment? Il ne me protège pas forcément dans le sens qu'il ne va pas y avoir de situation mauvaise. Puisqu'on a déjà vu précédemment que nous tombons, que voilà, qu'on ne va pas réussir. Parce que sinon, tout marcherait facilement, en fait. Non, non. Ici, il est dit, donc ainsi, tout homme pieux, donc c'est nous, te prie au temps convenable, donc dans le besoin, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. En fait, c'est quoi qu'elle ne va pas atteindre? C'est la piété de l'homme. C'est l'intérieur. C'est l'esprit de l'homme qu'elle ne va pas atteindre. La vie que nous pouvons avoir avec Dieu ne peut pas être atteinte par les gens, par les situations, ne peut pas être atteinte par ma chair et ne peut pas être atteinte par les démons et le diable. Dit autrement, comme il est dit dans l'épître de Jean, celui qui est en Christ ne pèche pas. Celui qui est en Christ ne pèche pas. Pourtant, comme je l'ai dit depuis le début, nous péchons tous les jours. Mais il y a un endroit dans mon cœur où je peux rencontrer Dieu. Et à cet endroit-là, je suis en Christ. Et à cet endroit-là, il n'y a pas de péché. Et à cet endroit-là, il y a une relation qui est correcte de Dieu. Et il y a la puissance de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a les pensées de Dieu, voilà, il y a tout ça. Sauf que bien sûr, je n'y suis pas tout le temps. Mais cette chose-là, cet endroit, ce lieu de la rencontre, cette tente d'assignation, elle est quelque part dans mon cœur. Et ça, c'est l'objectif de la vie chrétienne. C'est pas que le temple à l'extérieur soit joli, c'est pas que comment on appelle ça, les palissades autour du tabernacle soient jolies. C'est que dans le Saint des Saints, il y a quelque chose. Il y a la Shekhinah, il y a la présence de Dieu, il y a quelqu'un à rencontrer, il y a le cœur du Père, il y a celui qui veille sur mon âme, il y a celui qui connaît tout, etc. Il y a celui à qui je peux parler, il y a celui à qui je ne vais pas cacher mes transgressions, celui à qui je ne vais pas cacher mes péchés, à celui à qui je ne vais pas cacher le fait que je suis un pécheur et jouer un rôle, être un hypocrite et jouer un rôle, jouer le rôle du bon chrétien. Non, je ne joue pas le rôle du bon chrétien, je cherche la présence de Dieu. Et elle est dans le lieu très saint qui est dans mon cœur. parce que le Saint-Esprit est venu habiter ici. Et on continue un petit peu. Alors, donc, oui, donc tu es un asile pour moi, donc un refuge. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Pause. Alors, verset 8, intéressant. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseille, là c'est Dieu qui parle en fait, à travers la plume du psalmiste. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. En fait, une fois que j'ai compris tout ça, Dieu parle. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont à la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous à l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Donc juste, c'est nous, droits de cœur, c'est nous, hommes pieux, c'est nous. Mais ici, c'est intéressant parce qu'une fois on a mis le préambule, les trois premiers points, on arrive au quatrième. Et le quatrième, c'est que Dieu il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et ça, c'est mis en opposition avec ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Pourquoi? Parce qu'on doit les brider, on doit en fait les maintenir pour qu'ils aillent là où il faut qu'ils aillent en fait. Et vous savez quoi? Ben, la religion, le légalisme, c'est ça. C'est brider un cheval ou un mulet sans intelligence. Et Dieu, il veut une autre relation que celle-là avec nous. Il veut une relation où il peut nous instruire, nous montrer la voie, etc., etc. Et je vais finir en revenant au Proverbe 24. À la fin du Proverbe 24, il y a quelques petits versets qui parlent du paresseux. Et je vais juste vous les lire et faire un commentaire et un petit parallèle avec la fin de Psaume 32. Il est dit, verset 30, donc Proverbe 24, 30, « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré l'instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Et ce que je me suis dit, c'est que d'abord, une première chose, le feignant ici, il faut considérer que c'est l'attitude que l'on peut avoir par rapport à notre vie. Le champ ici, où il y a les ronces qui poussent partout, où il y a le mur de délimitation qui s'écoule, etc., c'est le champ de notre vie. C'est notre vie, en fait. Et donc, l'instruction, c'est un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Donc, on va être surpris. En tout cas, le feignant, là, il va être surpris comme un rôdeur. Et la disette, comme un homme en armes. Donc, en fait, il va être une surpris et il n'aura aucun moyen de résister. Et pourquoi? Parce que cette situation, cet état de feignant, ben spirituellement, je dirais que c'est exactement ce qui se passe lorsque nous sommes comme un cheval et un mulet sans intelligence. Quand nous n'avons pas compris les trois premiers points de Psaume 32 et que nous arrivons au quatrième et que nous ne sommes pas guidés par l'instruction, comme il nous est dit, hop, on revient. Par l'instruction, donc je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, etc. Donc, je suis guidé par autre chose, ça peut être le légalisme, ça peut être la religion, mais aussi une chose qui est intéressante, c'est que ça signifie que le problème du feignant ici, c'est qu'il n'est pas concentré sur ce qu'il doit faire. Il n'est pas concentré sur ce qu'il doit faire. Donc, ben, il dort, il s'assoupit, rien n'a d'importance. Et il a un comportement qui est stupide et à un moment donné, il en récolte les fruits. Et nous, dans notre vie, ça peut être la même chose. Pourquoi? Parce que nous pouvons ne pas être concentrés. Et je ne vais pas être concentré sur ce que Dieu veut dans ma vie. Pourquoi? Parce que est-ce que j'ai écouté l'instruction? Est-ce que j'ai écouté est-ce que j'ai vu, on va dire, la voie que Dieu veut que je suive? Au psaume 32, verset 8, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, etc. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Eh bien, le feignant, c'est exactement le point où il n'arrive jamais. Et nous, dans notre expérience, nous pouvons être ce feignant qui est à ce point-là. Ce point-là, il ne le rencontre jamais. Mais pourquoi il ne le rencontre jamais? Parce que tout ce qu'on a dit précédemment, il n'y est jamais vraiment rentré dedans. Heureux celui à qui la transgression est remise, etc. De ne pas cacher sa transgression. Et tout ce qu'on a vu, du coup, de prier au temps convenable, etc. Et du coup, sa vie, elle peut être définie comme étant celle d'un feignant. Et le contenu de sa vie, c'est un champ qui est en friche et des murs qui s'écroulent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas concentré dans sa vie. Il n'est pas concentré dans sa vie parce qu'il n'a pas suivi ces différentes étapes que nous voyons dans le psaume 32. Voilà. Donc ça, c'est la chose que j'avais à vous dire ce soir. Et donc, juste pour conclure et pour terminer, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ça serait bien que je dise une chose pour terminer. Je dirais une chose, et peut-être que je le mettrai en titre, même si c'est un peu long. Celui qui veille sur ton âme. Celui qui veille sur ton âme. Et mettez-y tout ce qu'on a dit ce soir. Celui qui veille sur ton âme. Ça doit être le point de départ. Celui qui veille sur ton âme. Amen.